Vivez un ramadan généreux avec le Secours Islamique France, premier acteur humanitaire français musulman, labellisé par le don en confiance.
20h, 21h.
Allô l'imam, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Une nouvelle semaine, Imam Abdelali qui commence. Bonsoir, bienvenue, bon ramadan, ravi de vous retrouver, Imam Abdelali.
Bonsoir Philippe, salam alaikum wa barakatuh. J'étais ravi de rencontrer tes invités là.
T'as vu, il y a du beau monde ce soir.
C'est la communauté montante là, composante musulmane qui est en train de monter en grade là, machallah, ça fait plaisir.
Oui.
Ça fait plaisir.
On en a gardé une.
Voilà, celle qui est à côté de moi.
On en a gardé une.
Quelqu'un a un contrat d'un million d'euros. On va partager ce soir, je crois.
Attends.
Un contrat d'un million d'euros.
À déjeuner. Je te dis pas pour le retour. Pour le retour, elle a un contrat à 2 millions.
Non, mais ça y est, on va la séquestrer. Bon, alors, les parents. C'est comment ton prénom?
C'est sorti tout seul, Samira.
Samira. Bon, les parents de Samira, si vous nous entendez, vous ramenez la mallette. Une mallette, vous mettez dedans 1 million d'euros. Si vous voulez retrouver votre fille. Vous la posez, attendez, vous rendez-vous à 3h du matin dans le parking de Carrefour.
Oh là là, c'est romantique.
Au quatrième sous. Bah non, c'est pour récupérer la mallette.
Oh, dis donc, le parking du Carrefour.
Et si vous prévenez la police, c'est foutu.
C'est mort.
Pourtant, c'est lui-même qui donne rendez-vous.
Je vous l'envoie un petit morceau.
Vous repérez facilement la Twingo de l'imam. Bon, Imam Abdelali. Bon, Samira, vous avez une question pour l'imam.
Alors, je tiens à dire que ce n'est pas une de mes questions.
Non, j'ai dit à Samira que c'était interdit de s'épiler les sourcils en islam.
Non, il y a divergence sur la question entre les savants qui, bien sûr, la plupart d'entre eux considèrent que ce n'est pas autorisé parce qu'il y a un hadith qui est clair qui dit La'anallahu namisa wal mutanammisa. Wannams, à l'unanimité des savants, Dieu maudit celle qui pratique le nams. Voilà, le nams. J'ai repris le mot en arabe.
Qu'est-ce que c'est le nams?
Bah, le nams, c'est justement le fait de s'épiler les sourcils. Donc, le prophète Anselm dit que maudit la femme. Mais il y a d'autres hadiths où le prophète Anselm encourage de manière globale une femme à rester une femme, à s'embellir, à garder sa féminité, à garder sa beauté, à être dans une démarche d'embellissement. Ou est-ce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait une femme qui n'était pas bien entretenue, il lui disait « Mais ton mari n'est pas là pour que tu sois comme ça ?» Il lui dit « Non, il est là, mais il dit « Si tu veux conserver ton mari, entretiens-toi, fais attention à toi. » Donc, ne s'embellir, ce n'est pas interdit. Maintenant, voilà, je pense que...
Alors, le maquillage...
Je reste sur le sourcil. Si c'est une manipulation légère qui consiste à embellir le sourcil tout en laissant les poils du sourcil tels qu'ils sont et en nettoyant un petit peu ce qu'on appelle une opération de nettoyage des poils rebelles, etc., ma'alish. Mais s'il s'agit de rendre transformer ou de carrément d'exploser toutes les sourcils qui restent plus rien du tout et le remplacer par, des fois par un trait noir, là, comment ils appellent ça?
Un tatouage?
Non, pas forcément un tatouage. Il y en a qui mettent juste un trait, un crayon.
Oui, du crayon.
Un crayon noir, un crayon de maquillage, je parle. Là, non, c'est pas autorisé. Je pense que c'est pas une bonne chose. La fiha tahrir khalqallah. Il y a une notion de transformation de la création de Dieu. Dieu, dans le Coran, dit la tahrir al khalqillah. On ne peut pas transformer la création de Dieu. Mais ce qui est de nettoyer les cheveux rebelles, il n'y a pas de problème.
Les poils rebelles. Pour maintenant, les tatouages, donc pour les sourcils.
Alors,
c'est vrai qu'il y a une grande mode aujourd'hui.
Le tatouage en...
Samira, vous confirmez.
Tous les tatouages sont illicites. Puisque dans ce même hadith-là, Dieu, il parle de washm. Al-washm, c'est le tatouage en arabe. Et il dit, alayhi sallam, la'anallahu al-washima, celle qui pratique le tatouage, wal-mustawshima, et celle qui se fait tatouer. Voilà. Donc là-dessus, effectivement, il n'y a pas photo. Un tatouage définitif, bien sûr, est illicite. Par contre, si c'est un tatouage temporaire, c'est du genre des encres qui vont directement sur la peau.
C'est les trucs de la plage qu'on fait sur la plage. Vous savez,
comment?
Les tatouages sur la plage qu'on vous fait.
Sur la plage?
Oui, bon, vous n'avez pas. Bon, vous n'allez pas sur la plage.
On a un problème avec la plage après.
Bon.
Non. Voilà. Donc à la coulée, il faut éviter. Il n'a pas besoin de ça. Il vaut mieux s'embellir avec un joli maquillage. On se fait plaisir on fait plaisir à son mari. On fait plaisir aux gens autour d'elle, de soi. Le jour de l'Eid en famille, tout ça. Vous venez avec des belles robes. Vous venez bien maquillé.
Sans vernis à ongles.
Le vernis, attention, le vernis, si elle le met le matin après avoir fait l'odo, et elle le garde le soir jusqu'à la journée, et puis elle l'enlève le soir, il n'y a pas de problème. Si elle a ses ablutions, elle le met après les ablutions. C'est pas le vernis qui est interdit. C'est le fait que les vernis empêchent la validité des ablutions. Mais si je le fais après avoir, je mets le vernis après avoir fait mes ablutions, que je garde toute la journée mon vernis et mes ablutions, et que le soir, j'enlève le vernis, il n'y a pas de problème. Il y a des maquillants qui peuvent débarrasser vos doigts du vernis, puis il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est, on parle de vernis pour s'embellir. Attention. Quand il s'agit de vernis thérapeutique, là, on a le droit de le garder. On a le droit de faire ses ablutions dessus.
Bon, Samira, est-ce que d'autres questions à l'imam ?
Non, il a validé tout ce que je faisais.
Parfait.
On est d'accord. Hein,
donc maintenant, pour la rançon, on fait comment ?
Mes parents écoutent, donc on est d'accord que tout est...
Tout est bien. Et tes parents, ils écoutent, donc ils ont bien compris combien ils devaient mettre dans la mallette. En petite coupure, d'accord ? Billet de 50, 20, ça va.
Pas de problème, c'est noté.
Merci, c'est noté.
On partage, Abdelali.
Toi et moi ?
Oui, on partage.
Oui, je te donnerai
combien ?
Une balle dans la tête, puis voilà, je continue mon chemin.
Voilà. Pas cool, l'imam. Pas cool, l'imam.
Il faut aller jusqu'au bout.
Attends,
il faut aller jusqu'au bout.
Tiens, alors, Imam Abdelali, on a Zaya qui nous appelle au 01 53 48 3000. Zaya, bonsoir, bienvenue et bon ramadan.
Allô, l'imam, bonjour.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Assalamu alaikum. J'ai une question mais toute simple. Je voulais savoir, le zakat et le mal, est-ce qu'on le sort en argent ou en nourriture ? Parce que moi, j'ai entendu qu'on le sortait en nourriture.
Zakat al-fitr ou zakat al-mal ?
Non, le zakat de Ramadan.
Voilà, zakat al-fitr. Ouais, alors, effectivement, l'idéal, c'est de la sortir en denrées alimentaires, un petit panier avec de la farine, des pâtes, du riz, de l'huile, etc. Et vous la donnez à une personne nécessiteuse. Si vous savez à qui la donner, vous la donnez en denrées alimentaires. Vous la donnez en denrées si vous savez à qui la donner. Si c'est pour ramener un sac de riz à la mosquée, c'est pas la peine.
Oui.
Comprenez ?
Mais donc, c'est précise, les kilos, je veux dire, on va pas acheter comme ça au hasard.
L'équivalent de 7 euros.
L'équivalent de 7 euros.
7 euros par personne. Par personne, pour chaque membre de la famille. Par contre, si vous savez pas à qui la donner, donnez l'argent, l'équivalent en argent de 7 euros à un organisme qui va après acheter des denrées alimentaires dans les pays où on est dans le besoin, et ils vont faire le travail à votre place. Mais ça sera bien des denrées alimentaires qui seront redistribuées aux pauvres.
En fait, si je le donne à une personne ici, je le donne en nourriture. Si je le donne plus à une association, je le donne en...
Oui, parce que l'association, elle aura des difficultés à gérer la logistique de votre panier que vous allez lui apporter. Ça ne saura pas comment le distribuer. Par contre, si vous lui donnez l'argent, elle va faire un transfert d'argent dans le pays concerné. Ouais. Ils vont acheter de la nourriture sur place et vont la redistribuer aux pauvres. Donc c'est très bien.
Très bien. J'ai une petite question. Est-ce que le zakat fait, ça passe pour une maman qui donne à sa fille, en fait qui
Non. Écoutez, voilà. Je disais tout à l'heure une personne qui m'a posé une question au téléphone.
D'accord.
Il y a votre argent en matière de dépenses, il y a deux flux. Vous avez ce qu'on appelle tout ce qui relève des nafaqa. Nafaqa, c'est-à-dire les dépenses et les dépenses qu'ont besoin vous-même, à vos enfants, d'accord, à votre mari, à votre famille, mais aussi à vos ascendants s'ils sont dans le besoin. C'est-à-dire vos parents, vos grands-parents s'ils sont dans le besoin. Vous devez leur fournir la nafaqa. Et inversement, et pareil pour les enfants, même s'ils sont mineurs, ils sont concernés par votre nafaqa s'ils sont dans le besoin.
D'accord.
C'est-à-dire que la première chose c'est qu'on doit assumer, c'est de prendre en charge les besoins, s'ils sont dans le besoin, bien sûr, des descendants et des ascendants.
D'accord.
Dès qu'on a payé et qu'on a versé ce que l'on doit et qu'on s'est assuré qu'il manque de rien et qu'on a de l'argent à donner en sadaqa à des étrangers, à des gens qu'on ne connaît pas, à ce moment-là, on peut la donner à un sadaqa à des non-ascendants ni des descendants. C'est-à-dire à un frère, à une tante, à un oncle, à un neveu, à un gendre. Tout cela, s'ils sont pauvres, on peut leur donner la sadaqa, pas la nafaqa.
D'accord, ok, ça marche.
Ok, est-ce que c'est clair ?
C'est très très clair, merci.
Voilà, bon, écoutez,
merci, bonne soirée, Zakia.
Merci. Alors, beaucoup, au revoir.
Direction de Toulouse, Imam Abdelali, c'est Yacine qui vous appelle au 01 53 48 3000. Bonsoir Yacine, et bienvenue, bon ramadan.
Allô, Imam, bonsoir. Voilà, merci à vous aussi. Je vous appelle, en fait, j'aurais juste voulu savoir, dès que des personnes viennent à Tarawih, y a à chaque fois deux unités là qui sont priées là de la raka'a. Je voulais savoir si on intègre la deuxième raka'a, est-ce qu'il faut rattraper la première?
Bien sûr. Chaque prière surérogatoire doit être composée de deux unités. Donc si vous ratez une raka'a avec l'imam, vous devez rajouter une deuxième raka'a. Puisqu'on ne peut pas faire, sauf si vous avez l'intention de faire le witr. Votre prière, c'est de faire le witr. Le witr qui est une prière unique, et à ce moment-là, mais il n'y a pas d'autre prière derrière. Il n'y aura pas d'autre prière derrière. Voilà.
Non, c'est vraiment ça. Il n'y a pas. Ah,
à ce moment-là, vous rajoutez une autre unité derrière, bien sûr.
D'accord, mais du coup, c'est à voix haute ou à voix basse?
À voix basse, non, plutôt à voix basse pour ne pas déranger, parce que vous êtes dans une mosquée et l'imam qui va se lever, commencer à réciter. Si vous commencez à réciter à voix haute à côté des gens à côté de vous, non, les prières surérogatoires, on a le choix la nuit de les faire à voix haute ou de les faire à voix basse. Donc là, étant donné que vous allez déranger l'imam et les gens qui prient derrière lui, puisque vous serez à côté d'eux, vous le faites à voix basse.
D'accord, et c'est fait, Fatiha et quelques versets du
Coran. N'importe, oui, effectivement, tout à fait.
Ok.
Merci Yacine. Lyon, avec Karim, qui est au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Karim.
Allô, l'imam.
Oui, salam
alaykoum. Karim.
Encore une fois, allô, l'imam.
Allô.
Bonsoir. En fait, oui, allô, vous m'entendez?
Parfaitement, Karim.
Salam.
C'est très gentil. Donc, voilà. Donc, deux petites questions. Je ne suis pas directement concerné, mais on va dire, je constate quelque chose. Est-ce que, par exemple, et tout, les gens, vous savez, quand vous avez rempli le jeûne, que vous avez mangé, des gens qui consomment le produit un peu, genre...
Attends, ça coupe, parfois, il y a tac, 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 là, je ne sais pas, il y a une voyelle sur deux que je n'entends pas bien.
Qu'est-ce qu'ils consomment comme produit qui arrive?
C'est mon casque.
Tout, on va dire, non, c'est un joint.
Voilà, les gens qui fument des joints le soir après...
Après le ramadan, après avoir jeûné... Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que la fréquentation de ces gens, ne serait-ce que comme ça, est-ce que c'est conseillé ou déconseillé? Voilà, il y a deux questions.
Alors, il faut savoir que ce produit de narcotique, qui est un produit qui est une drogue, il faut savoir que c'est elle est déjà totalement illicite. C'est exactement comme si quelqu'un buvait de l'alcool. Quel est le statut de boire de l'alcool le soir du ramadan? Ben c'est le même que celui qui fume des joints ou qui se drogue avec la cocaïne ou des drogues, soit qu'elles soient douces ou dures. C'est totalement illicite en dehors du ramadan, comme pendant le ramadan, comme le soir du ramadan, comme tout. Voilà.
Mais les gens vous disent que c'est moins grave. Enfin, les gens ne boiront pas d'alcool et vont quand même fumer des joints.
Les deux
des
sont aussi nocifs l'un que l'autre. Les deux sont haram, tout aussi interdits l'un que l'autre. Il n'y a pas de différence entre la drogue et l'alcool. Donc, maintenant, est-ce que ça invalide leur jeûne? Non, leur jeûne reste valide s'ils n'ont pas fumé la journée. Leur jeûne est valable. Maintenant, vous, est-ce qu'il est bien de fréquenter des drogués? Je sais pas. Vous, est-ce que vos enfants, vous serez d'accord qu'ils fréquentent des drogués?
Non, bien sûr.
D'accord.
Vous êtes de la religion, mais vous.
Non, mais attends, il n'y a pas besoin de poser la question. Est-ce qu'il est bien de recommander de fréquenter des gens qui se droguent? Si vous les fréquentez, c'est vous qui avez le dessus pour leur essayer de les conseiller à arrêter. Oui, mais si vous laissez influencer par eux et que c'est vous mettez à fumer, là, c'est un peu un malaise.
Non, vous en faites pas. Je dis simplement et tout. Est-ce que c'est déconseillé, par exemple, d'être avec quelqu'un qui roule ses joints devant vous?
Il roule ses joints
devant vous. Il les fume pas, hein, il les roule juste.
Ouais, et il fait ça au mois de juin en plus.
il les fume.
Alors, ces personnes-là, il faut soit être dans une démarche de l'amr bil ma'ruf, c'est-à-dire ordonner le bien, ordonner ce qui est de bon usage, comme l'exige Allah Azza wa Jal quand il parle de la meilleure des communautés, c'est celle qui ordonne le bien et qui interdit tout ce qui est blâmable et détestable. Eh bien, effectivement, vous pouvez vous asseoir à côté de ces gens-là pour, dans un but de da'wah, de prédication, de prêcher la bonne parole. Pour lui dire, voilà, ça c'est pas bien, que ça va te faire que du mal, ça va pas t'apporter grand chose, ça va rien faire, ça va juste te permettre d'échapper à un moment de la vie, mais ça va dégrader ton corps, ton cerveau, ça va brûler tes neurones.
Une fois que vous avez dit ça plusieurs fois, je m'excuse de vous couper. Une fois que vous avez dit ça plusieurs fois, mais qu'apparemment ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire?
Vous tenez à distance. Vous prenez vos distances, voilà, c'est tout. Vous lui dites quand même salam alaikum. Ça ne doit pas changer votre comportement vis-à-vis de cette personne.
Pas de souci.
Courtoisie reste une obligation.
Voilà, je me posais la question à savoir si c'est une bonne fréquentation ou s'il faut éviter.
Non, Voilà. Non, c'est pas des bonnes. Bien sûr, c'est pas. Bien sûr, même pour vos enfants, réfléchissez. Est-ce que ça serait bien pour vos enfants, ça?
Bien sûr, hein. Mais je voulais toujours avoir un point de vue par rapport à la religion, quoi.
Inch'Allah.
Je suis pas.
C'est la même chose que pour l'alcool. La même chose.
Bien, la réponse est claire, Imam Abdelali. On prendra d'autres appels dans un instant. Nounours, vous notez le numéro auquel vous pourrez poser votre question ouais. à l'imam, mais il va falloir téléphoner.
D'accord.
C'est le 01 53 48 3000. Il n'y a pas de pistonnage. Hein.
01 43 58 3000.
Voilà, d'accord. Si vous souhaitez poser vos questions à l'imam dans un instant.
Tu dis juste 01 53 et puis tu as le droit de parler.
Voilà, moi je suis là, moi, pour...
Allô l'imam, reviens dans un instant. Beur FM, 20h, 21h. Allô l'imam, avec Philippe Robichon.
Et tous les soirs du Ramadan, vous posez une question à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Et si je n'ai pas d'imam, je vais me tourner vers le Cheikh Nounours.
Cheikh Nounours, voilà.
Cheikh Nounours,
plus connu sous le nom de Cheikh Peluche.
Voilà, c'est vous qui répondrez aux questions des auditeurs.
Allez-y, hein, je vous écoute, auditeur.
Bon, manque de peau, l'imam est arrivé.
Ah. Bah vous avez de la chance. Bah c'est, moi, je vous aurais envoyé en enfer, là.
C'est la famille Beur FM, c'est priorité à la famille Beur FM.
Tout à fait.
Non, mais vous avez vu le
Sabrina, nombre... je parlais de Sabrina.
Ouais. Elle avait des questions.
Elle avait des questions, et puis voilà, moi.
Est-ce qu'on peut faire la bise pendant le mois du Ramadan?
Est-ce qu'on peut faire la bise tout court en dehors du Ramadan, avant de parler du Ramadan?
Bon, alors.
On fait la bise à sa sœur, à sa mère, à sa tante, à sa nièce.
À sa femme, on peut?
À sa femme, même tu peux faire plus que ça. Même. Tu peux y aller plus loin. Tu veux... le soir du Ramadan.
Je t'aime, Abdelali Mamoulou.
Là, on parle de toute l'année. On parle du soir du Ramadan avec ta femme. Tu fais ce que tu veux. La journée du Ramadan, si tu touches, tu fais des choses qui ne sont pas correctes avec ta femme, tu payes 60 repas à des pauvres, mon gars. T'es mal barré.
Non, et il faut jeûner aussi.
Non, c'est l'un ou l'autre.
Ah bon?
Ouais, c'est l'un
pas la double peine.
Non, c'est
bon,
pas
bah, ça rafle comme je veux manger, moi.
Non, c'est soit tu as les moyens, tu verses sur 60. Non, d'abord, tu dois commencer par. On parle du jeûne d'abord. Est-ce que tu es capable de jeûner 60 jours? Le dit le prophète à cet homme qui avait du rapport avec sa femme pendant la journée du Ramadan. Il a dit, non, je ne peux pas jeûner, je ne suis pas capable, je n'ai pas la force physique pour jeûner 60 jours d'affilée. Il a dit, possèdes-tu l'équivalent de 60 repas à des pauvres? Il a dit non. Il a dit, est-ce que tu as les moyens d'affranchir un esclave? Parce qu'à l'époque, il y avait des esclaves. Il a dit non. Et là, le prophète l'a dit, attends, reste là. Il est parti, il est rentré chez lui, il est revenu avec un plateau de dattes, donc un panier de dattes. Et il lui a dit, tiens, prends ça et ramène-le aux pauvres, et distribue-le aux pauvres. Et là, le compagnon dit, Ya Rasulallah, il n'y a pas plus pauvre à Médine que moi. Et là, le prophète sourit, il a dit, allez, prends-le, il va nourrir ta femme. Hein. Va te nourrir toi et ta femme. Il était venu censé expier sa faute en payant et en, c'est-à-dire en étant corrigé. Et finalement, il est récompensé.
Il est reparti avec un plateau de dattes.
Il est parti récompensé. C'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est n'empêche que ce hadith-là est utilisé par les ulémas pour parler de kafara al-kubra, la grande expiation quand il s'agit de rapports sexuels dans la journée du Ramadan.
Et ça montre encore une fois la grande norme du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà, donc faut pas s'amuser avec ça. Ceux qui n'arrivent pas à se retenir, qui n'arrivent pas à se maîtriser, vous gardez vos distances avec vos épouses.
Samira est avec nous et Samira nous appelle de Paris. Bonsoir, bienvenue, bon Ramadan, Samira.
Salut l'imam, bon Ramadan.
Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon Ramadan mubarak karim. Marhaban.
Barakallahu fik, alina wa alik. Imam, je voulais vous poser une question. Je suis séparée depuis 4 ans. J'étais mariée et j'ai eu un jugement de la non-conciliation depuis 4 ans. J'ai pas eu encore mon divorce et le papa des enfants, il veut pas prononcer le divorce verbalement.
Est-ce que vous avez obtenu un divorce civil?
Non, j'ai pas de divorce civil.
Attendez, vous étiez mariée civilement?
Civilement, à la mairie et au consulat.
Consulat marocain?
Oui.
D'accord. Eh bien, écoutez, là, effectivement, là, la réponse est facile. Est-ce qu'il faut obtenir un divorce du consulat marocain?
Ben non, j'attends toujours au tribunal et ça fait trop long lorsque je vais demander de...
Mais est-ce que quand vous... Ben là, on n'a pas le choix parce que le mariage qui a été prononcé au consulat par un adoul, hein, ce qu'on appelle le notaire instrumentaire, eh bien, ne peut être invalidé que s'il y a divorce par le notaire instrumentaire lui-même ou par votre mari, c'est-à-dire par déclaration de divorce, par répudiation. Soit le adoul, il annule le mariage.
Mais non, il refuse, c'est-à-dire que c'est à 4 ans, il refuse toujours. C'est-à-dire, il me bloque depuis 4
pourquoi,
ans.
Pourquoi 4 ans, madame? Normalement, est-ce que vous êtes séparée physiquement depuis plus de 2 ans?
Non, depuis 4 ans, physiquement.
Plus de 2 ans, on est d'accord? Bah, normalement, oui. Vous devriez obtenir un divorce civil.
Non, je ne l'ai pas encore.
Bah, normalement, une personne qui est séparée de corps peut obtenir facilement un divorce, pour tout simplement sans motif, simplement sur la base de séparation des corps de plus de 2 ans. Et avec ça, si vous avez votre divorce civil de la mairie, vous le faites valider par le consulat marocain, et après, à ce moment-là, vous n'êtes plus marié. Dans votre extrait de naissance est marqué « mariez-le, divorcez-le », et là, à ce moment-là, vous pouvez vous remarier.
C'est-à-dire que je ne peux rien faire sans avoir le divorce.
Mais normalement, je m'étonne pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir votre divorce, parce que ça fait 4 ans que ça dure.
Et même parce que lui, à chaque fois, il reporte, il rajoute une pièce. Le juge, il reporte. Et mon avocate, elle ne fait rien. Et moi, 4 ans, c'est même ma famille et tout le monde, ils me disent que ce n'est pas possible. Et mon avocate, elle ne me répond plus.
Excusez-moi, madame. Si vous êtes aussi pressée, c'est parce qu'il y a un prétendant là qui vous attend ?
Oui.
D'accord. Vous voyez, il faut creuser.
Sherlock Holmes.
C'est Colombo.
Ça fait 4 ans. Ouais.
C'est 4 ans.
D'accord.
C'est 4 ans. Et je respecte Dean. Je veux bien que tout soit en règle. Je ne veux pas faire quelque chose qui soit contre nous.
Écoutez, moi, il m'est arrivé de faire annuler un mariage. Mais le problème, il faut que ce soit un mariage que religieux et de la mairie française. Et le problème, c'est que là, vous êtes marié par une autorité religieuse marocaine. Et donc, ce n'est que l'autorité marocaine qui peut vous annuler votre mariage. Et si elle dit que pour valider votre divorce religieux marocain, il faut d'abord un divorce civil, vous êtes bloqué. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que là, on parle de la loi marocaine. La loi marocaine, l'autorité marocaine est une autorité religieuse. Le divorce, le mariage du Hadoul, qui est ce qu'on appelle le notaire instrumentaire, est un acteur de l'administration marocaine qui a pour force de pouvoir marier et à la fois civilement et à la fois religieusement. Donc pour pouvoir annuler, vous devez respecter la procédure.
Voilà Samira, merci pour votre question. Aymen est avec nous. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan Aymen.
Attends, je parle que pour le Maroc. Hein. Ça aurait été l'Algérien, ça aurait été autre chose.
Et la Tunisie ?
Pareil que l'Algérie. Donc là, effectivement, c'est cette personne-là qui se marie à la mairie française, elle est un Tunisien, un couple de Tunisiens, ne sont pas mariés au consulat tunisien, parce qu'ils n'exigent pas le mariage au consulat marocain, tunisien. Ils ont fait une fatha avec un imam. L'imam peut faire annuler le mariage s'il constate des négligences, c'est-à-dire une séparation des corps prolongée du conjoint, le fait qu'il n'assume pas ses obligations matérielles, ni ses obligations conjugales. Tout simplement, l'imam peut effectivement prononcer, mais il doit d'abord enquêter. Il ne peut pas se baser que sur les déclarations de la dame. On m'appelle au téléphone, voilà, mon mari m'a quitté depuis 1 an, il ne paye plus rien, etc. Ah ben madame, vous êtes divorcée ? Non, on ne peut pas faire ça. On doit d'abord appeler le mari, savoir pourquoi il est séparé, et pourquoi il ne paye pas, pourquoi il n'assume pas ses obligations conjugales. Et à ce moment-là, après, on peut prononcer le... On lui demande d'abord de répudier la femme.
Ouais.
On lui dit, tant la gbartak, puisque tu n'es plus avec elle, pourquoi tu la laisses suspendue ? قال تعالى ولا تذروها كالمعلقة ne la laissez pas suspendue. تخليها لا هي مزوجة لا هي مطلقة. Elle n'est ni mariée ni divorcée. Ça, c'est interdit de faire ça.
Alors, Aymen est avec nous. Bonsoir.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Aymen.
Non, la maman de Aymen.
Ah, Oumu Aymen.
Voilà.
Ah, parce que moi, je m'appelle Abu Aymen aussi.
Ah, Allah.
Mon grand garçon s'appelle Aymen.
Moi aussi, mon grand garçon s'appelle Aymen.
Et il a 22 ans, le mien.
Ah, moi, il a 10 ans.
Mashallah. Aymen.
En fait, je voulais demander, s'il vous plaît, par rapport à Zakat al-Fitr. Est-ce qu'on peut envoyer au bled ? Il y a des gens qui sont en besoin. Est-ce qu'on peut envoyer au bled ?
Alors, oui. Essayez de faire en sorte que quand elle arrive là-bas, l'argent soit transformé en denrées alimentaires. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans la nécessité, essayez par exemple de faire en sorte que celui qui réceptionne l'argent aille dans les magasins, achète des denrées alimentaires et les distribue aux pauvres. Le mieux, c'est de faire ça. Hada, c'est Ahsan Shay, la meilleure des choses à faire.
D'accord. Au lieu de
non, il vaut mieux. Zakat al-Fitr, le prophète a dit Tu'matun lil-miskin, lil-masakin. Tuhratun lis-sa'imi min al-laghwi wal-rafath, wa tu'matun lil-masakin. C'est nourriture. On est censé à Zakat au moment de Yawm Eid al-Fitr, qui est tout le monde est à manger. Personne ne doit mourir de faim ou n'avoir de problème de nourriture ou soit obligé de jeûner à cause de la misère ou à cause de la pauvreté. Tout le monde doit avoir de quoi se nourrir le jour de Eid al-Fitr al-Mubarak. C'est pour ça qu'il faut privilégier la nourriture.
D'accord,
shukran. Non, la shukran, oui. On prend un autre.
Merci. Karima est avec nous, 01 53 48 3000. Bonsoir Karima.
Allô, l'imam ?
Allô, salam alaikum.
Bonsoir. Je suis une Française mariée à un Tunisien.
Enchantée, ravie.
Enchantée. Et je tenais à vous appeler pour vous dire que depuis le début du ramadan, je vous écoute sur la radio et j'apprends beaucoup de choses grâce à vous.
Eh bien, c'est gentil. Merci du compliment et merci des encouragements.
De vous écouter tous les soirs.
C'est gentil. Vous n'aviez pas de questions ?
Non, c'était juste pour vous dire que je passe un bon ramadan, que je souhaite un bon ramadan à tous les musulmans.
Ah, bah c'est gentil.
Pour les convertis aussi.
Oui, très bien.
Et pour vous féliciter pour votre travail avec Philippe.
Barakallahu fik, merci, qu'Allah vous bénisse, Inch'Allah, madame.
Ça va nous encourager.
Allah vous comble de bonheur avec votre Tunisien.
Merci
à condition qu'il ne vous crame pas trop la bouche avec sa harissa. Hein.
Non, ça va.
Oh, les clichés, Philippe.
Là, je vis ce qu'on appelle un GMS, un grand moment de solitude radiophonique.
Oui, d'accord, c'est vrai.
Non,
il n'est pas trop harissa, votre mari.
Bonne continuation.
Merci.
Karima.
J'aime bien plaisanter.
Restez à l'écoute. On vous connaît maintenant.
Adoucir l'atmosphère.
Surtout qu'on est au régime ce soir.
En plus, ça sent la rencontre à la préfecture, ça. C'est,
tu sens ça
très commode. Ouais.
Comment ça, la préfecture?
On vous en parlera. On ne peut pas vous en dire plus.
C'est un truc qui était dans l'émission d'avance, c'est ça?
Non, c'est...
D'autres choses.
C'est conceptuel, l'immeuble de la vie.
Okay.
Alors que Sarah vous attend, là. Sarah,
moi, avec moi, on comprend ce qu'on dit. Pas avec vous.
Sarah, bienvenue, bonsoir, bon ramadan.
Oui, salam alaikum. Voilà, alors moi j'ai une petite question, c'est concernant un prénom, je voudrais savoir en fait s'il est musulman ou non.
Mais est-ce que ce prénom, il a prononcé la shahada pour être musulman d'abord?
Ben en fait c'est pour justement un bébé.
Non mais le prénom là.
Est-ce qu'il existe des prénoms musulmans?
Non, voilà, est-ce que ce prénom là, est-ce qu'il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah »
Est-ce
que...
Encore
né. Non mais le prénom je vous parle, est-ce qu'il a été circoncis? Comme les musulmans. Madame, si je vous dis ça de manière ironique, c'est tout simplement parce que les prénoms musulmans, ça n'existe pas.
D'accord.
On a le droit de se faire appeler Sabrina ou je sais pas moi, n'importe quel prénom à partir du moment où il n'a pas une connotation qui est incompatible avec la foi. Par exemple, quelqu'un qui se fait appeler Christine, voilà, qui a un rapport avec le Christ.
Oui.
Effectivement, là, ça peut effectivement porter à confusion.
Justement, en fait.
C'était quoi le prénom que vous voulez me faire part?
Alors voilà, moi j'avais vu un forum justement où il y avait plusieurs divergences, où il y avait des personnes.
Non, mais donnez-moi le nom. C'est quoi?
Oui, c'est Naël.
Naël avec un H.
Oui, voilà.
Naël. Non, Naël est un mot arabe. Hein, Naël.
Oui, c'est arabe, mais alors du coup...
Est-ce que c'est musulman? Tout ce qui est arabe est musulman?
Voilà, excusez-moi pour le mot, j'aime pas...
Madame, appelez votre enfant comme vous voulez. Nahel, Nahel, Naïla, Nahel... Il n'y a pas de problème. À partir du moment où c'est joli, que c'est agréable, que ça vous plaît, que sa signification d'origine hébreu ou d'origine grecque ou d'origine latine vous plaît, il n'y a aucun souci. C'est à votre votre choix, parce que là les prénoms relèvent des traditions et des mœurs des pays de chacun. Certains, il est certes par contre quelqu'un qui va appeler son fils d'un nom comme je sais pas moi François ou Jean-Claude, et parce qu'il a honte de son nom, de ses origines, là il y a des choses à se poser comme question quand même. Pourquoi il a honte de ses origines? Donc c'est pas le fait d'avoir appelé son enfant ou soi-même avoir changé de nom et d'avoir pris un nom français qui m'embête, c'est surtout son complexe d'infériorité, son complexe identitaire qui doit être, on va dire, peut-être suivi par un thérapeute, peut-être, et qui doit être, on va dire, soigné. On ne doit pas avoir de complexe de ses origines. Si je suis kabyle, arabe, chlech, ou quoi que ce soit, je dois être fier de mes origines. Il y a des prénoms berbères... et qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui sont malgré tout utilisés par les berbères, et ils ne disent pas, ils se posent pas la question si c'est musulman ou pas musulman.
Ariles.
Voilà, Ariles. Qui veut dire le lion.
Je crois.
Non, on a en plus Sabrina, attention. Attention. Qui va corriger si on est dans le droit chemin.
Jugurtha. Hey, Jugurtha, tu connais Jugurtha? Astadera.
Là, Ariles, c'est le lion, c'est ça.
Non, le lion, c'est Ism.
Alors, c'est quoi, Ariel?
Ashkon. Léopard. Hein? Ariel.
Léopard. Ah oui, le léopard. Donc, c'est un peu chez nous, comme on dit, le sba.
Sba.
Sabrina, rejoins-nous, plutôt. Viens avec nous, on va profiter de ta voix. Ça va être beaucoup mieux, parce que là, tu es trop loin. On a un écho.
Tu peux lui reposer la question, Philippe? Alors, Arilès, ça veut dire quoi?
Arilès.
Arilès, ça veut dire léopard. Et lion, c'est Izm.
Izm.
Et Amqaran.
Amqaran, c'est grand.
Le grand.
Ah. Et Tassadit.
Tassadit, c'est le béni. La bénie. Béni.
Ah ouais, c'est
et Lucif.
You?
Lucif, Lucif.
Lucif.
Lucif, ah, c'est chien, noir. Bidjaya.
Il y a Mohand, qui Mohand. Est la contraction de Mohamed. Mohamed, d'accord. Mais comme on peut retrouver Mehmet chez les Turcs, Mamadou, ou Mamadou chez les Africains.
Voilà, et Dieu Gurta.
Bah, Jugurta a marqué l'histoire. C'est pas normal que tu ne connaisses pas Jugurta.
Les Massinissa.
Jugurta, Massinissa.
Ah, il joue à l'Oréal. Bah
non,
oui.
Non, non.
Les Kahina.
Ah oui, il a gagné la Ligue des Champions avec Ribaldo.
Première émission. Et c'est parti de ton histoire.
En émission musulmane, Kabyle.
Il y a Juba. Il y a Juba, dont on parle pas assez.
Ouais, mais bon.
Non, il y a aucun problème. Vous pouvez prendre tous les noms de vos pays d'origine et pas honte de vos origines. C'est tout ce que je peux dire. Mais si quelqu'un a envie de choisir un nom de n'importe quelle origine chinoise ou japonaise, il n'y a aucune incompatibilité mais avec la foi.
Ça veut dire que les prénoms musulmans n'existent pas.
Ça n'existe pas. Il n'y a pas de prénom musulman.
Oui, parce qu'à quel moment est-ce qu'on peut dire que c'est un prénom musulman? Par exemple, Tariq Ben Ziyed. Bon, c'était un berbère. C'est
alors,
lui
alors, alors, d'abord, déjà, il y a deux prénoms dans Tariq Ben Ziyed.
Voilà, c'est ça. Il y a Tariq et il y a Ziyed. Ziyed. Absolument. Alors, mais donc, Tariq.
Tariq, c'est un nom arabe.
Qui était berbère.
C'est un noir.
Mais qui était musulman et qui a conquis l'Andalousie.
Mais il n'y a pas
est-ce que c'est voilà, mais alors ouais. Du coup, est-ce que c'est musulman? Est-ce que c'est pas musulman? À quel moment ce serait un prénom musulman? C'est ça l'incompréhension.
Eh bien, nous le saurons. Nous le saurons après une page de publicité. Nous le saurons après une page de publicité.
C'est la Kabylie libre.
Allô, l'imam. Reviens dans un instant. Beur FM, 20h, 21h. Allô l'imam avec Philippe Robichon.
Voilà, c'est comme hier, 21h51 si vous habitez Paris, la région parisienne pour la rupture du jeûne. Qu'est-ce qui vous fait rire, Imam Delali? Partagez avec nous.
Non, c'est simplement parce que Samira est restée avec nous.
Oui. Samira de la rançon, bah oui, c'est normal.
C'est peut-être parce qu'elle veut, elle veut être complice avec nous de sa propre
kidnapping.
Prise, voilà, kidnapping,
propre
son propre kidnapping.
Ah, là, c'est bon. Donc elle veut sa part.
Elle veut taxer ses parents. Donc on vous a rien dit, vous n'avez rien entendu. Hein. On est d'accord, les parents. Donc comme convenu, la valise ce soir à 2h du matin. Là où
bon,
on avait convenu.
Là, on a dit, donc, au parking du Carrefour à Bercy 2.
Troisième sous-sol.
Ouais, troisième sous-sol.
Voilà.
Sabrina, reste avec nous également. Tu avais une question à poser à l'imam Abdelali.
Ah oui?
Non?
Non.
C'est fini sur les prénoms. Non, on est bon.
J'aimais bien le prénom Idir. Idir.
Oui.
Idir.
Oui,
ça veut dire qu'il va vivre.
J'expliquais
ça
la signification de Idir.
Ça n'a rien de musulman, mais il n'y a pas de problème de se faire appeler Idir.
Parce qu'à l'époque, les femmes avaient souvent des enfants qu'elles perdaient. Et du coup, pour garder les enfants, les maintenir en vie, elles appelaient leur fils Idir. Beshek ouais. Ned Yidir. Voilà, parce que Yidir, c'est la vie.
C'était de bonne augure. C'était pour... voilà, pour voilà. Et puis Akli, et puis Lounès, et tout ça. C'est donc, ils n'ont rien à voir avec le monde musulman et le monde arabe. Il n'est pas du tout interdit d'appeler ses enfants comme ça.
D'accord.
Isaac aussi. Isaac,
Israq. Tous les noms des prophètes, tous les noms des prophètes, on a le droit, bien sûr. Ishaq, Yaqoub. Par contre, un homme de l'histoire de l'islam qui a fait du mal aux musulmans et qui a été véritablement un personnage connu comme Qarun. Tu ne vas pas appeler ton fils Qarun. Ou bien Haman, ou bien Pharaon. Pharaon. Qui ont été les tyrans et qui étaient des symboles du mal absolu. On doit appeler son fils au minimum un nom dans lequel Ntfel ou Bilkhay, c'est-à-dire qu'on espère qu'il sera un exemple pour lui à travers ce nom-là. Ntfel ou Bilkhay, toujours.
Alors maintenant, c'est terrible parce que j'arrête pas de recevoir des SMS. Alors les gens ils disent et demandent à l'imam si on peut. Gédéon, on peut ou pas?
C'est un nom, je crois, d'origine hébreu, ça, Gédéon.
Je sais pas, moi, Gédéon, je connais pas
Gédéon. Gédéon, c'est Pixou.
Jérémy, on peut ou pas, par exemple? Jérémy, c'est
oui,
affreux,
Jérémy,
ça, Jérémy. On pourrait. On pourrait.
Mahdi, tout ça, c'est, y a pas de problème.
On peut.
Oui, on peut.
Bien. Cette tradition qu'on doit appeler son premier fils Mohamed.
Alors, effectivement, ça, c'est chez les Arabes, chez les musulmans, effectivement, qui sont attachés à la, et qui ont un attachement à leur prophète Mohamed, alayhi salatu wassalam. Et donc, pour eux, c'est comme si c'était un devoir, en tant que membre de la communauté des croyants et des adeptes de notre maître, à tous qui est Sayyidina Mohammed, d'appeler son premier. C'est une manière de rendre hommage au prophète. Donc, c'est tout à leur honneur. Ils sont
d'accord. Et après Mohammed, quels sont les prénoms qui sont les plus donnés?
Il me semble, il y a Abdullah aussi, et Abdurrahman. puisque c'est les trois noms les plus nobles que le professeur m'avait dit, les meilleurs noms.
Serviteur de Dieu, donc.
Les meilleurs noms sont Mohammed, Mahoumida, puisque Ahmed, Mohammed, Mahmoud, ou Ma'oubida, Abdullah ou Abdurrahman. C'est les deux meilleurs. Après, ensuite, il y a tous les autres, Abdelaziz, Abdelkader, etc. C'est effectivement des noms que le professeur a encouragé. Souleymane, c'est le prophète.
Pareil,
Souleymane, David, Daoud. Hein, vous dites Daoud ou David, il n'y a pas de souci. Soit en langue française, vous dites David, ou en arabe, vous dites Daoud, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'exigence.
Et en français, dans le texte, donc, c'est Nathalie qu'on accueille. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Nathalie.
Donc, je dis aux convertis, arrêtez de vous obliger de changer de nom. De Nathalie, par exemple, si elle est musulmane, elle reste Nathalie. Pourquoi elle doit changer de nom et prendre un nom de Aïcha ou je ne sais pas quoi?
Alors, on va d'abord l'accueillir. Bonsoir, Nathalie. Ah, vous lui avez fait peur.
Allô, Nathalie, elle s'est sauvée? Allô, Nathalie du 91. Peut-être qu'elle a mis du temps pour arriver.
Oui, c'est loin. Bon, écoutez, Nathalie, vous restez en ligne, on vous reprend dans un instant. Abdelkader qui est dans l'Aude. Bonsoir et bienvenue, Abdelkader.
C'est Carcassonne.
Allô, les mêmes et tout, vous allez bien?
Wa alaykoum salam. Carcassonne, c'est ça?
C'est ça, oui.
Carcassonne.
Il y a l'accent, là, il y a la chaleur du sud qui arrive.
Ah, il fait très chaud, là, aujourd'hui.
Ça peut être Castelnaudary aussi, hein.
Il fait très chaud.
Il fait chaud. Bon.
Chaud, oui, aujourd'hui, oui.
Marhaba bika, c'est Abdelkader.
Oui, voilà, j'ai fait de la chimio presque toutes les semaines.
Allah yechafik.
Et ça fait naouche, ça fait le musulman, hier. Et il faut payer à la fin du mois. Je ne sais pas combien.
Ben oui, dans votre état, Akhil Karim, votre maladie est pratiquement presque une considérée comme une maladie dont la guérison ne... on va dire, peut être très tardive. On va pas dire que c'est une maladie incurable. Je vous souhaite en tout cas qu'elle soit pas incurable. Je souhaite qu'Allah Azzawajal, il t'accorde un prompt rétablissement et qu'il t'accorde, Inch'Allah, une guérison très rapide. Néanmoins, après, ça dépend. Est-ce que tu es à la fin de ta phase de guérison? Tu es à quel niveau de ton état? T'en as pour combien de temps? Voilà, c'est ça que je veux dire.
Pas encore, là, ça fait 6 mois que je fais le.
Les médecins, ils disent combien de temps encore de médicaments?
Les médecins, ça dépend. 3-4 mois, 1 an, ça dépend.
Bon, alors tu verses la fidia et c'est bon, on n'en parle plus. La fidia. Tu t'acquittes de la fidia si tu as les moyens, 5 euros par jour ou un repas à un pauvre. 5 euros par jour.
Il y en a qui viennent manger presque tous les jours, mais il y en a qui ne viennent pas.
Eh ben, écoute, tu comptabilises le nombre de repas que tu as offert à une personne, à des gens. Oui. Et si c'est des pauvres, attention, faut pas que ça soit des voisins qui ont les moyens. Hein.
Non, c'est des pauvres.
Des pauvres. Il faut que ça soit, à chaque fois, un jour, tu donnes un repas à un pauvre. C'est votre manière à vous, les malades, de jeûner.
D'accord.
Et Allah, il vous accorde la même récompense que nous. Il n'y a aucun problème.
Yerbi amin.
Amin, Inch'Allah.
Allah, Shafiq. Amin, Yerbi alaykoum. Hada, Philippe, il est avec vous, non?
Oui, je vous écoute, Abdelkader.
Il est là, Philippe.
C'est moi, Abdelkader.
Ah, c'est parce que vous vous rappelez, moi j'étais pas malade encore là. Je vous ai fait une annonce pour les injecteurs et tout ça.
Eh ben, exactement, mais c'était il y a une année peut-être déjà.
Et oui, une année, j'étais pas malade encore, oui.
Voilà, ben, écoutez, en tout cas, bon rétablissement, Abdelkader, et puis toutes nos prières vous accompagnent.
Hein. Allah, on dit à tous les auditeurs qu'Allah est Shafi, dites tous Amin chez vous, dans vos demeures, ceux qui nous écoutent. Allah est Shafi, Akhouna. Abdelkader, Shifa Anajila, Inch'Allah.
Bon rétablissement, Abdelkader.
Merci à moi.
À bientôt, Abdelkader. Alors, vous posez vos questions à l'imam Abdelali, mais si vous n'arrivez pas à passer à l'antenne, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'appeler l'imam sur son téléphone. Peut-être parce que déjà, vous avez une question qui est d'ordre personnel, hein, que vous ne voulez pas l'exprimer sur l'antenne. Rappelez votre numéro, s'il vous plaît, imam Abdelali.
Alors, le 06 29 25 35 00. 06 29 25 35 00.
Bien. Alors, on a perdu Nathalie et on récupère Elodie. Bonsoir, bienvenue, bon ramadan, Elodie. Elodie, vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
En fait, j'aurais une question à vous poser.
Bah, ça tombe bien, vous êtes là, on vous écoute.
Du coup, je voudrais savoir si l'épilation définitive à l'université, c'était
J'ai pas entendu. Ah, l'épilation
définitive.
Autorisé. À partir du moment où c'est dans un endroit qui est autorisé. Pour les femmes, à partir du moment où on rentre dans un phénomène de féminisation, c'est-à-dire vous avez une démarche d'être encore plus féminine que vous êtes, c'est très bien.
D'accord.
Non. Oui, mais s'épiler les sourcils, c'est aussi une démarche de féminisation. Il y en a qui
c'est
te disent que c'est pas
tout
bon.
À l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'à partir du moment où on est dans une démarche de s'embellir, de rester féminine, c'est bien. Mais il faut que ça reste sobre. Voilà, faut pas aller jusqu'à affiner et faire disparaître carrément ses sourcils. Même moi, un homme, je trouve ça écœurant, une femme sans sourcils. Et qui, à chaque fois, tous les jours, obligé de faire un trait avec un crayon.
Aujourd'hui, la question n'est pas sans sourcils. Aujourd'hui, la question, c'est le tatouage des sourcils.
Oui. Mais je vois pas en quoi c'est beau.
La question n'est pas de savoir si c'est beau ou pas. En tout cas, ça se fait. Tout le monde en a.
Il a répondu, il a dit non. Chaque tatouage définitif, c'est non.
Non, tous les tatouages. C'est pas simplement sur le sourcil.
Non,
tous les tatouages. Dieu maudit, celle qui tatoue, il se fait tatouer. Voilà. Il y a une forme de transformation de la création. Hein, Dieu t'a donné un corps, tu laisses tel, tu le rends à Dieu tel qu'il a pris. Il n'y a pas droit, on n'a pas le droit à la transformation du corps humain. Quand on parle de transformation définitive, mais un tatouage temporaire ou du maquillage ou ce que les enfants y mettent pour la foire de fin d'année scolaire, ou ça, il n'y a pas de problème, bien sûr.
Mais là, l'épilation dont parle Élodie, c'est une épilation définitive.
Oui, oui. Non, mais elle parle pas de l'épilation. Des
c'est
sourcils.
Au laser. Hein.
Elle parle pas d'épilation des sourcils. Elle parle de l'épilation du corps.
Oui.
Est-ce qu'une femme, il est plus naturel pour elle de ne pas avoir de poils ou d'avoir des poils? Moi, je pense que une femme qui n'a pas de poils, c'est plus normal, puisque déjà, elle n'en a pas sur le visage. Voilà, il est plus normal pour une femme. Elle en a très peu.
Si vous naissez avec des poils, c'est que c'est forcément, ils ont une utilité.
On a le droit de. Il y a une unanimité des savants que même nous, les hommes, on a le droit de se raser toutes les parties du corps, pour les hommes, hein, sauf le visage. Sauf le visage, mais tu peux te raser tout le corps. Même toi, un homme, tu peux te raser la poitrine, les aisselles,
les jambes. Si tu te rases, ça repousse. Alors que là, si tu te rases, ça repousse. Là, on parle d'épilation définitive.
Il n'y a pas de problème.
Donc, c'est peut-être son jugement, elle.
Non, il n'y a pas de problème. Elle peut le faire. Elle peut le faire. L'épilation définitive est autorisée, il n'y a aucun souci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Par exemple, vous avez chez les cyclistes, c'est indispensable parce que comme ils ont leurs jambes souvent qui est pris au vent et ça leur fait les poils, ça les gêne. Eh bien, eux, ils ont besoin de faire des épilations périodiquement. Donc les fameux sportifs de haut niveau qui font du cyclisme et doivent avoir les jambes rasées. Eh bien, eux aussi pourraient effectivement, s'ils le veulent, faire une épilation au laser en définitive. Il n'y a pas de problème. C'est pas interdit.
Alors, après Elodie, c'est Ali qui nous appelle et je dis donc Ali, allô, bonsoir et bienvenue.
Ali, allô, bon salam alaikum.
Allô, l'imam, bonsoir à vous.
Allô, c'est Ali, c'est ça?
Oui, salam.
On t'écoute.
Vous allez bien?
Marhaba, khoya. N'écoute pas Philippe, moi aussi je m'appelle Abdelali et lui il sait pas ce que c'est Ali, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'Auguste, Ali.
Mais Ali avait deux questions.
Oui, on t'écoute, Ali.
Alors, on y va pour la première, Ali.
Une question. Pour la première, j'aurais bien aimé que vous ayez quelqu'un qui nous parlerait à l'occasion, avant la fin de Ramadan, de l'autophagie. Et surtout du prix Nobel d'il y a 2 ans.
De l'autophagie.
C'est quoi ça, l'autophagie?
Ouais. Bah, écoutez, je ne suis pas médecin, mais c'est un système de la dégradation des cellules. Et comment ça se régénère
Mais c'est quoi la question religieuse là-dedans?
La question religieuse, c'est que le médecin, en tout cas celui qui a obtenu le prix Nobel, il parle de jeûne et l'importance du jeûne, en fait. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si vous avez un médecin qui pourrait éclairer tout le monde.
Savoir effectivement comment le jeûne aide à l'organisme à se régénérer et à donc
régénérer les cellules, voilà. Absolument. Et donc, le monsieur a eu le prix
Nobel. Il y a 2 ans, je pense.
C'est cela. En 2016, c'est un Japonais qui travaille depuis 40 ans et ce sont des études. Et
c'est passionnant, ça.
Ce qui est complètement pas dingue, mais la coïncidence, c'est qu'il préconise un jeûne de 2 fois par semaine.
Ah, 2 jours par semaine.
Donc, voilà, c'est que la tradition musulmane du prophète.
Oui, Allah yberk.
Voilà. Bon, donc je dis c'est intéressant c'est pour les gens qui croient par la science, c'est important. Ma question, j'aurais bien aimé savoir ce que ça veut dire adiflam, mim, para, tous les mots qui se trouvent en début de ayat.
Quand vous ouvrez les encyclopédies musulmanes d'exégèse, le mot exégèse signifie en arabe tafsir, qui veut dire expliquer et tenter d'expliquer, de commenter le sens des versets du Coran. Hein, ces fameux ouvrages encyclopédiques, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, etc., qui sont des grosses encyclopédies, quand vous arrivez dans la partie où il y a effectivement ce mot-là, ces lettres qui sont citées au début de certaines sourates, il y en a une 20aine à peu près, qui commence par Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad, Hamim, Hamim Ain 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 Sin Qaf, Ain Sin Qaf, etc., etc. Eh bien, ils te disent quoi à la fin? Ils t'écrivent tous Allahu A'lamu bi Muradihi. Dieu seul sait qu'est-ce que ça veut dire. C'est eux qui l'écrivent. Après, vous avez ce qu'on appelle, ça c'est l'exégèse qu'on appelle par narration. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune narration qui explicite de manière claire et évidente la signification de ces lettres. Que ça reste un mystère, que Dieu a dit, voilà, ça c'est pour moi, ce sont des lettres, c'est moi seul qui en connais le mystère, et vous les récitez telles qu'elles sont, et c'est moi qui, peut-être un jour, vous informerai, mais ça reste ce qu'on appelle de ilm al-ghaib, les connaissances infuses et qui sont incommensurables, qui sont inaccessibles par le commun des mortels, et voilà, c'est comme ça. Et vous avez ce qu'on appelle des définitions ésotériques, qui relèvent du tafsir ishari, où est-ce que vous avez alif qui veut dire, je sais pas quoi, alors ils vont sortir plein de choses qui ont un rapport avec le soufisme, avec des révélations de ce qu'on appelle en arabe le haqa'iq, des vérités spirituelles qui sont accordées que à des personnes élues d'Allah Azza wa Jal. Mais bon, tout cela reste pour moi prétentieux, puisque si le prophète ne l'a pas dit, c'est que voilà, c'est qu'on ne sait pas.
Voilà ce qu'on pouvait dire, Ali, et pour l'autophagie, on essaiera de trouver quelqu'un, un spécialiste du jeûne. Je crois qu'on en a un qui vient mercredi. On verra, on pourra aborder la question avec lui. Dans un instant, retour avec les programmes du Ramadan, et c'est la chronique d'Ismaël Mounir que vous retrouvez. Beauté et sagesse de la voix prophétique. Beurre FM, il est 20h56.
Retrouvez Allô l'Imam tous les jours de 20h à 21h sur Beurre FM.
Sur Beurre FM.
Le Secours Islamique France vous souhaite un Ramadan solidaire. Le Secours Islamique France, l'expertise au service de votre générosité.